Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Dimanche prochain, le 13 septembre, marquera le 5e centenaire de la plus célèbre bataille de l'histoire de France. Franck Ferrand nous en parle aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Et oui, 2015 moins 500, ça fait 1515. Ben voilà, c'est pas très compliqué. Et évidemment, nous allons parler de Marignan. Nous allons parler de Marignan, mais très intelligemment, comme vous pouvez l'imaginer Anissa.
Bien sûr, comme d'habitude.
Nous allons le faire en compagnie de celui qui a sans doute le mieux étudié cette bataille, qui la connaît parfaitement, presque minute par minute. Didier Le Fur est avec nous, il est l'auteur d'une impressionnante biographie de François Ier.
Et vous répondrez, Franck, tout à l'heure à la fin de l'émission, à la question d'Hervé qui souhaite connaître les origines de la chasse.
Eh bien décidément, voilà une question de saison. J'ai l'impression que nous allons faire aujourd'hui, c'est l'expression que je vais retenir, une émission de saison.
C'est parti.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Ah ça, vous l'avez forcément appris ou répété un jour, et même à la limite, si on ne vous l'a pas appris, ça fait partie des choses qu'on a l'impression de savoir. Marignan, 1515, voilà, la date est connue. Quand je dis la date est connue, la date elle-même, souvent, on l'ignore, cette date des 13-14 septembre 1515. On verra d'ailleurs tout à l'heure avec Didier Le Fur s'il faut parler ancien style ou nouveau style à propos de cette date du 13 septembre 1515. Toujours est-il que cette bataille est devenue un véritable symbole. Elle est un peu, la bataille de Marignan, le symbole des grandes batailles de l'histoire de France. Et j'ai pensé pendant longtemps que c'était parce que c'était facile à retenir, 1515, etc. Et puis, est sorti il y a des années maintenant, dans la collection Pour l'Histoire chez Perrin, un ouvrage consacré entièrement à Marignan. L'ouvrage en question était signé de Didier Le Fur, notre invité d'aujourd'hui. Et là, j'ai compris, si je puis dire. J'ai compris toute l'importance de cette bataille et les bonnes raisons qu'on avait eues de la mettre en avant pour des raisons évidemment stratégiques, politiques, mais aussi, et c'est peut-être plus intéressant pour nous, pour des raisons culturelles, car Marignan marque quelque chose de nouveau dans l'histoire, on y viendra tout à l'heure. Alors, j'en entends déjà qui doivent dire, ça y est, revoilà Franck Ferrand avec ses batailles, il nous parlait l'autre jour de je sais plus quoi, d'Azincourt, aujourd'hui c'est Marignan, on n'en sort pas, il nous saoule avec ses batailles. Alors, à ceux qui pensent cela, je réponds que pendant des siècles, les batailles ont été l'élément saillant de l'histoire. Ça a été des moments de vérité formidables. Vous savez, c'est le moment où cristallise une époque, littéralement. Et donc ces batailles ne sont pas seulement des événements, des accidents événementiels. Ce sont aussi de grands points de repère symboliques, des moments de vérité où tout se résume, où tout se concentre, où les choses se mettent à faire sens. Et c'est ça qu'il y a d'intéressant, bien entendu. Alors, concernant Marignan, je ne vous en voudrais pas si vous ne savez plus exactement qui se battait contre qui. Alors bon, François Ier d'un côté, ça généralement on le sait quand même. Mais qui était en face? Bien en l'occurrence, c'était les Suisses. Et oui, en cette année 2015, je crois que tout le monde le sait maintenant à peu près. Qui étaient les alliés de François Ier? Ah, là ça devient plus compliqué. Il y avait les Génois, il y avait les Vénitiens surtout qui vont jouer un rôle tout à fait extraordinaire. Et pour quel enjeu se battait-on? Eh bien, si on me demandait de le résumer en une phrase comme ça, je vous avoue que je serais bien embarrassé et je vais refiler gentiment le bébé à Didier Le Fur qui vous expliquera dans un instant pourquoi on se battait, parce que, à vrai dire, ça n'était pas d'une clarté extraordinaire. Alors, avant toute chose, laissez-moi vous resituer à grands traits le contexte de la bataille qui est le contexte de cette année 1515. Quelques mois auparavant, un tout nouveau roi vient de monter sur le trône. Ah, il est magnifique, il est brillant, il a 20 ans, vous imaginez. Il est très grand, il est très beau, il est très fort. Bref, n'en jetez plus. C'est une sorte de géant qui monte sur le trône des Valois. Alors, les Valois ont eu du mal à conserver leur couronne, il faut bien le dire. La couronne est passée de la branche principale aux Valois Orléans, à travers la personnalité du roi Louis XII, qui se trouve être non seulement le cousin, mais aussi le beau-père de ce Valois Angoulême qu'est François. Alors comment est-ce que François est devenu le roi de France? Je vous résume ça à grands traits. Vous savez que en avril 1498, à Amboise, Charles VIII était mort tout jeune. Enfin, quand je dis tout jeune, il avait 28 ans, ce qui à l'époque n'était peut-être plus si jeune, mais tout de même. Il avait été marié à la duchesse de Bretagne, bien sûr, hein, à Anne de Bretagne, mais il n'avait pas d'enfant. Et ce qui fait que la couronne est passée à son propre cousin, le duc d'Orléans, qui est devenu Louis XII. Sauf que le duc d'Orléans avait épousé une des filles de Louis XI, Jeanne de France, qui était une femme sans doute remarquable et une sainte femme, mais qui était handicapée gravement. Elle ne pouvait pas avoir de descendance. Qu'à cela ne tienne, Louis XII va répudier Jeanne et il épouse la femme de son prédécesseur. Il épouse Anne de Bretagne, qui devient pour la deuxième fois reine de France. Et elle va avoir plusieurs grossesses, cette Anne de Bretagne. Mais vous savez, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça déjà, que jamais elle ne donnera naissance à un héritier. Alors si, il y aura des petits princes, mais qui mourront en bas âge. Donc c'est évidemment autant d'arguments en faveur du jeune François d'Angoulême, qui se trouve être le plus proche parent de Louis XII, et donc son successeur désigné. Vous imaginez les affres pour la mère du jeune François, qui voit à chaque fois la couronne se rapprocher ou s'éloigner en fonction des grossesses de la reine Anne. Et puis en 1504 et en 1505, le roi Louis XII est malade, il est très malade. Il va même devoir s'aliter. On le transporte à Blois quasiment plus mort que vif. Et là, cette fois, la mère de François se dit « c'est bon, mon fils va être le roi ». Eh bien non. Le roi Louis finit par survivre. C'est la reine Anne de Bretagne qui finira par mourir la première. François a épousé la fille aînée d'Anne de Bretagne et de Louis XII, la princesse Claude de France, celle qui va devenir la fameuse reine Claude. Oui, il y a un rapport avec les prunes, mais je n'irai pas beaucoup plus loin. Et finalement, François va devenir le roi François Ier à la mort de Louis XII, à l'extrême fin de l'année 1514. Ce qui veut dire que le 1er janvier 1515, François est roi. Ça, c'est encore une date encore plus facile à retenir que Marignan. Évidemment, François est couronné le 25 janvier à la cathédrale de Reims, bien sûr. Il est couronné, il est le roi, incontestable, incontesté, mais vous avouerez que sa légitimité est un petit peu mince tout de même. Et il se pourrait bien que dans les motivations qui vont le conduire au-delà des Alpes vers Marignan, il y ait la volonté de dorer tout de suite un blason un peu trop neuf.
Des François Ier, musique d'un règne, la gaillarde contre raison à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Aujourd'hui, Franck Ferrand vous emmène au cœur de la bataille de Marignan.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Elle aurait duré 16 heures, fait près de 16 000 morts. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous plonge au cœur de la bataille de Marignan.
Alors vous imaginez sans doute, Anissa, François Ier, parce qu'on le connaît. Mmh. Mais à mon avis, vous ne l'imaginez peut-être pas comme il le faut. Parce que, bien sûr, on a l'image de ce géant débonnaire et toujours somptueusement vêtu, tel que nous l'ont dépeint les Clouets, avec sa barbe surtout. Vous savez, or, à l'époque, il n'a pas encore de barbe. Il va falloir attendre 1519 pour qu'elle apparaisse, cette fameuse barbe. Pour l'instant, c'est encore un jeune homme imberbe qui va conduire de l'autre côté des Alpes la plus impressionnante des armées qui soit. Alors quand même, avant de conduire une armée, il faut pouvoir l'équiper. Il faut réunir des fonds. Et ça va être toute la question de cette première année du règne. Vous savez que Madame Louise de Savoie, qui est la mère de François Ier, qui bientôt va être régente de France, parce qu'en quittant le royaume, il l'institue officiellement régente, Madame Louise fait tout ce qu'elle peut pour renflouer des caisses dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles sont en mauvais état au moment de la succession. Il faut donc trouver des fonds, on finit par y arriver, et nous voilà partis pour cette aventure au bout de laquelle se trouve Marignan. Alors quand je dis qu'on trouve des fonds, on a quand même été jusqu'à faire fondre toute une partie de la vaisselle d'or de Louis XII. Il a fallu obtenir de grosses avances du trésor. Alors là, il y a des fortunes privées qui se sont substituées aux fonds publics. Ça nous entraînerait dans un débat passionnant avec Didier Le Fur. Je sais que c'est un des sujets qui l'intéresse, mais je ne vais peut-être pas entrer là-dedans aujourd'hui. Il va falloir aussi, et ça c'est très coûteux parce que ça va nous coûter 1 million d'écus au passage, acheter la paix du côté de l'Angleterre. Il faut que Henri VIII se tienne tranquille pendant cette période. Et puis, on va surtout signer avec les Autrichiens de l'empereur Maximilien à l'époque, on va signer un traité très important, le traité de Paris, qui nous permet d'assurer nos arrières, si je puis dire. Donc, une fois qu'on a assuré la paix anglaise, le soutien mais la neutralité viennoise, on s'assure du soutien cette fois de Venise, bien entendu, et le roi s'embarque déjà sur la Loire. C'était la façon dont on procédait à l'époque. Et puis il va descendre comme ça tranquillement jusqu'à Lyon, où il fait son entrée triomphale le 12 juillet. Lyon, c'est la ville où s'installe traditionnellement la cour de France pour les campagnes outre-mont, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire en Italie. C'est l'endroit où l'on réunit l'armée. Alors, c'est une armée considérable, hein, 30 000 hommes. La cavalerie française est réputée imbattable. L'artillerie française, du fait de ce qui peut passer déjà pour les prémices d'une industrie, est une excellente artillerie. Elle est confiée à Genouillac, en l'occurrence. On a confié toute l'avant-garde au connétable de Bourbon, qui est un cousin du roi. Ce jeune connétable de Bourbon a toutes les faveurs de la nouvelle mère, de la mère du nouveau roi. Il a été fait connétable pour tenir une promesse qui avait été faite à Louis XII. C'est lui qui tiendra l'avant-garde. Qu'y a-t-il en face, si je puis dire? Eh bien, en face, le pape a envoyé en Piémont Prospero Colonna. Il a demandé à Laurent de Médicis, son neveu, de garder Plaisance. Et surtout, il dispose de 20 000 Suisses qui sont les alliés de la famille Sforza de Milan, des Suisses qui vont garder les cols principaux pour le passage des Alpes et qui donc vont s'installer à Pignerol, vont s'installer à Suse, ce qui rend très difficile le passage des Alpes. Alors on dit que, je ne sais pas si c'est vrai ça, mais on dit que ce sont des montagnards qui auraient révélé au maréchal de Trivulz certains passages, notamment le passage du col de l'Argentière, qui n'aurait donc pas été gardé par les Suisses. En tout cas, dites-vous que c'est une expédition tout à fait hors du commun qui se met en place. Il va falloir traverser les Alpes. Ça nous rappelle Hannibal, un grand nombre de siècles plus tôt, bien sûr. Et traverser les Alpes dans des conditions extraordinaires. Il faut transporter tout le matériel, il faut transporter toutes les armes de guerre, les armes de jet, notamment, qui sont extrêmement difficiles à transporter sur des sentiers de montagne abrupts. On utilise des convois de mules, mais les mules dérapent sur les sentiers de montagne. On voit donc des pans de l'armée se jeter au ravin. Je vous dis ça pour bien avoir à l'esprit la difficulté et le caractère quasiment héroïque de cet exploit, de cette traversée des Alpes par une armée française qui a été quand même fortement renforcée par des lansquenets, par des mercenaires venus d'Outre-Rhin et puis d'un certain nombre de provinces françaises, parce que la faiblesse du dispositif français d'emblée, d'ores et déjà, c'est l'artillerie. Et ça, ça poursuivra François Ier pendant toute la durée de son règne. Alors, Genouillac avec son extraordinaire artillerie, La Palice, Montmorency vont passer par d'autres défilés, hein, eux ne passent pas par le col de l'Argentière. Et le 14 août, La Palice va surprendre le prince Colonna à Villafranca. Il le surprend en plein banquet. C'est-à-dire que Colonna était bien loin d'imaginer ce qui allait se passer. Il était tranquillement en train de banqueter quand les Français lui sont carrément tomber dessus au point même de le faire prisonnier. Donc ça commence bien, si l'on peut dire, cette campagne pour les Français. Ça commence bien, est-ce que ça va bien se poursuivre? Eh bien, tout va dépendre des Suisses, parce que ce sont eux, vous l'aurez compris, qui disposent de la force principale, et les Français sont bien décidés à négocier avec les Suisses. C'est au plus offrant, vous savez. Alors on décide de leur payer déjà tout ce qui leur est dû, et puis on dit que le roi de France aura le droit de faire des ponctions, pourra recruter dans un certain nombre de cantons. Jusque-là, tout a l'air de bien se passer. Ça, c'était compté sans l'intervention d'un personnage essentiel, du personnage peut-être clé de cette affaire, c'est le fameux cardinal de Sion. Il va intervenir dans un instant.
Tous les jours, vous pouvez réagir à l'émission, soit sur la page Facebook de Cœur de l'Histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant sur Europe 1 pour la suite de son récit consacré aujourd'hui à la bataille de Marignan.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Ce dimanche sera le 500e anniversaire de la plus célèbre bataille de l'histoire de France, la première victoire du jeune roi François Ier, 1515, Marignan, Franck.
Il a fallu entraîner les hommes, il a fallu lui tenir, pour ne pas dire retenir les chevaux, bref. On est passé, et les mules, on a fini par passer, quand je dis on, toute l'armée française, les différents régiments sont passés de l'autre côté des Alpes. C'est un exploit, hein, encore une fois, on va y revenir dans un instant. C'est le 30 août à Novare que les Français arrivent à faire leur jonction. Les Suisses, je vous l'ai dit, sont massés à Suse, à Pignerol, mais voyant l'arrivée des Français, évidemment, et voyant ce qui s'est passé avec le prince Colonna, ils se sont retirés du côté de Milan. C'est le moment où ont lieu les fameuses négociations avec les Suisses, et pendant longtemps, on est presque sûr qu'on va y arriver. Les cantons d'Uri, de Berne, de Zurich se montrent très réticents pour des raisons qui sont quasiment déjà culturelles. Mais enfin, néanmoins, on est sûr, François Ier est quasiment certain qu'il a acheté l'alliance des Suisses. Sauf que le matin du 13 septembre, ouais, nous y voilà, notre date, à Milan, devant le couvent des Cordeliers, le cardinal de Sion, Matthias Schiner, va prononcer un discours violent contre la France. Il ne tient pas compte du tout de la parole donnée par la plupart des Suisses au roi de France et il entraîne avec lui une grande partie de la garnison suisse de Milan. Ce sont ces gens-là qui vont maintenant se battre contre les Français. Et on se rapproche très vite des Français. Les Français à l'époque campent à Sainte-Brigide. On est sur la route entre Milan et Marignan. Alors nous disons Marignan, c'est Meleniano en fait. Alors c'est très décevant comme endroit aujourd'hui parce que, ah bon, à l'époque c'était des grande plaine marécageuse, il faut dire, avec quelques routes toutes droites, ce qui va d'ailleurs déterminer la stratégie de cette bataille. Mais dites-vous qu'aujourd'hui, c'est devenu une sorte de banlieue avec plein de HLM à perte de vue et des bretelles d'autoroute. C'est vrai que ça fait pas tellement rêver Marignan, Meleniano, aujourd'hui. Donc, c'est une plaine, en tout cas, où la cavalerie va pouvoir s'exprimer, ce qui est fondamental pour les Français, et qui ne présente quasiment pas d'obstacles à l'artillerie non plus. On connaîtra un cas de figure un peu différent à Pavie en 1525, mais là, ce qui empêchera l'artillerie d'intervenir, ce sera justement la cavalerie qui sera intervenue, qui aura chargé trop tôt. À 3h de l'après-midi, les Suisses chargent l'avant-garde française. Ça aurait pu être une surprise terrible, mais le connétable de Bourbon et son entourage, qui scrutent de façon très précise l'horizon, ont vu des fumerolles, si je puis dire, ils ont vu des poussières à l'horizon. Et oui, car quand vous déplacez de telles masses humaines, évidemment, ça brasse de la poussière. C'est cette poussière qui a trahi les Suisses, et c'est ce qui fait que les Français n'ont pas été surpris. François contre-attaque très vite et vous assure, madame, écrit-il à sa mère, qu'il n'est possible venir en plus grande fureur ni plus hardiment. Il y avait si grande poussière qu'on ne se pouvait voir, aussi bien que la nuit venait. Me sembla bon les charger et vous promets, madame, que si bien accompagnés et galants qu'ils fussent, 200 hommes d'armes que nous étions en défîmes bien 4000 Suisses et le repoussâmes assez rudement en leur faisant jeter leurs piques. Ah, c'est la fureur Francese qui une fois de plus s'exprime, c'est une fois de plus bien sûr le nombre et l'ardeur des Français qui vont faire la différence avec cette chose tout à fait particulière que La bataille, ayant été engagée un peu tard, va se poursuivre dans une confusion extrême du reste jusqu'aux premières heures de la nuit, qui tombe relativement tôt en ce mois de septembre outremont. Et les soldats vont continuer à se battre la nuit tombée. Donc imaginez cette bataille, cette mêlée extraordinaire qui se passe en pleine nuit jusqu'au moment où, parce qu'il y a quand même un beau clair de lune, jusqu'au moment où les nuages cachant la lune, alors là on est dans le noir complet, et il faut quand même s'arrêter, il faut quand même s'interrompre. Mais il y a là quelque chose d'assez étonnant, c'est que les deux armées sont entremêlées, si je puis dire, et que l'on a mis les armes, on a déposé les armes bien entendu en attendant que revienne le petit jour, que revienne le soleil, mais les deux armées mêlées vont attendre dans le noir, dans la nuit, que les combats puissent reprendre. Pendant ce temps-là, les Français n'ont pas perdu de temps. On repositionne un certain nombre de régiments. Et puis surtout, chose de bataille, comme on disait à l'époque, j'hésitais à employer le terme, mais c'est comme ça qu'on disait. Et puis surtout, on va prévenir nos alliés. Et bientôt, dès 7h30, 8h du matin, au cri aventureux de San Marco, San Marco, ce sont les Vénitiens qui vont voler à la rescousse. Bonjour Didier Le Fur.
Bonjour.
Alors nous allons revenir dans le détail sur cette bataille de Marignan.
C'était déjà parfait.
Mais non, là pour l'instant c'est à peine esquissé. J'espère bien que dans la nuit de Marignan, vous allez très vite éclairer notre lanterne.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Aujourd'hui, nous sommes en 1515, effectivement, puisque dimanche marquera le 5e centenaire de la plus célèbre bataille de l'histoire de France, la bataille de Marignan. Aujourd'hui, Franck, vous recevez Didier Le Fur, historien et auteur de François 1er, paru chez Perrin, et Marignan 1515, paru chez Perrin également.
Je remarque, chère Anissa, que la coque de votre téléphone portable est un hommage à la reine Elisabeth, qui dans 2 heures maintenant va battre le record de son aïeul,
Exactement.
La reine Victoria.
God save the Queen. À chaque grande occasion, il faut s'adapter. Hein.
Voilà. Alors nous étions dans la nuit de Marignan, on n'a pas vu encore le dénouement de cette bataille, nous allons laisser à Didier Le Fur le privilège de nous le raconter. François Ier raconte, c'est inouï hein, cette situation de ces deux armées qui se sont arrêtées comme ça, on est resté en suspens. Les Suisses, écrit le roi toujours dans la lettre qu'il adresse à sa mère à Lyon, les Suisses se logèrent bien près de nous, si près qu'il n'y avait qu'un fossé entre eux. Toute la nuit demeurâmes le cul sur la selle, la lance au poing, armée à la tête et nos lansquenets en ordre pour combattre. Donc on attend et puis dès que on ne c'est le vers de Corneille, hein, ne plus décider jusqu'au point du jour. Et quand soudain voilà le jour qui se lève, voilà le soleil qui renaît et on recommence la bataille. Didier Le Fur, comme on reprend là où on en était avec un petit changement quand même.
Oui, on reprend immédiatement parce que tout simplement la première journée n'a était absolument pas décisive, ou plus exactement, a été plutôt favorable aux Suisses.
7 heures de bataille pour rien, si on peut dire.
C'est-à-dire pour surtout mettre en danger l'armée française
oui.
et particulièrement sa cavalerie, qui au départ a tenté de faire une sorte de barrage contre les mercenaires suisses, mais qui très très vite, en raison de certains terrains sur le champ de bataille, et notamment dans tous les réseaux d'irrigation et tout ça.
Terrain meuble et marécageux.
Voilà, c'est embourbé, et c'est là où les premiers morts français ont été importants, et notamment dans la noblesse. Et ensuite, les Suisses ayant mis de côté la cavalerie, eh bien, ont fondu directement sur l'artillerie, qui était le plus gros danger pour eux. L'artillerie française est certes importante pendant cette bataille, mais la technicité de l'époque est un peu encore primaire. C'est-à-dire qu'entre le temps du premier coup et du deuxième coup, il y a au moins 6 à 7 minutes.
Oh là là.
Et ça suffit largement pour courir contre ces fameux canons.
Sûr.
Et même s'il y a d'autres qui sont plus légers et qui s'arment plus rapidement, ça reste toujours quelque chose d'assez compliqué. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de fumée. C'est
oui,
pas toujours rentable au niveau de l'efficacité.
Ça impressionne l'adversaire, ça c'est incontestable.
Mais voilà, incontestablement. Et donc il faut prendre cette artillerie. D'autre part, cette artillerie, elle avait joué un rôle important aussi parce que François Ier s'y est mis à côté, puis ça permettait de le protéger. Un roi de France dans une bataille, c'est toujours excessivement dangereux.
On le verra quelques années plus tard, dix ans plus tard.
Exactement.
Puisque François Ier sera capturé au cours de la bataille de Pavie.
Exactement. Et là, c'est le roi de France avait voulu participer à cette bataille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, très justement, à la fois pour se montrer, pour montrer son existence de roi, pour montrer l'une des choses les plus essentielles qu'un roi de France doit faire, c'est-à-dire protéger son peuple et ses frontières. Ça fait partie du contrat du sacre, si j'ose dire.
Et conduire l'ost, comme on
voilà,
disait.
Voilà, exactement. Et donc, cette participation du roi, elle n'était pas obligatoire. Le fait qu'il veuille y aller montrait à la fois son désir de s'illustrer comme un roi protecteur, et puis aussi de récupérer la victoire en son nom s'il y avait victoire. Toute cette journée du 13 est donc une journée compliquée, très meurtrière, d'abord pour les Français, puis pour les Suisses, mais relativement. Et à la fin de la journée, le cardinal de Sion est pratiquement sûr du résultat. D'ailleurs, il va déjà envoyer des missives à travers l'Europe. Et Henri VIII, quelques jours plus tard, apprendra que finalement François Ier avait perdu cette bataille.
Il a été un peu vite, le cardinal de Sion.
Il
représentait dans cette affaire, il est à la tête, si je puis dire, de ce camp qui réunit, rappelons-le, bien entendu, nos principaux ennemis, qui réunit l'Aragon, donc toute la région de Naples, qui réunit le pape, Léon X en personne, qui est contre nous à cette époque, et puis bien sûr les Sforza de Milan, qui sont les régionaux de l'étape, en quelque sorte. Ce cardinal de Sion est donc l'ennemi de François Ier.
C'est celui qui va focaliser toutes les haines contre François Ier. Voilà. Parce que même si, comme vous l'aviez dit tout à l'heure encore, très justement, pendant tous les premiers mois du règne de François Ier, la diplomatie française va tenter de renier les liens avec ceux qui s'étaient portés contre...
Avec l'Autriche, avec l'Angleterre.
Voilà, ceux qui s'étaient portés contre Louis XII pour le chasser d'Italie. Mm-hmm. Eh bien, nouveau roi, nouveau traité, et nouvelles espérances, et donc aussi nouveaux liens, avec notamment avec l'argent et des projets de mariage. Et donc, du coup, s'il n'y a pas un consensus formidable autour du roi de France pour qu'il revienne en Italie et pour qu'il puisse conquérir ce Milanais, tant espéré par la France depuis déjà près de 20 ans, eh bien, c'était une manière, s'il se cassait la figure, tout le monde aurait été aussi ravi. Et indirectement, tout le monde espérait la victoire des Suisses. Et quand Schinner écrit et fait envoyer à travers l'Europe...
Le fameux cardinal de Sion, Mathieu Schinner.
L'espérance est presque acquise. Sauf que...
Nous avons des alliés, nous aussi.
Exactement. Et les alliés que les Suisses espéraient, c'est-à-dire ceux du pape et l'armée pontificale soutenue par l'armée florentine, qui devait faire une sorte de contrepoids à l'armée suisse, c'est-à-dire les Suisses, mettons, au nord, et le pape
les autres,
et
les autres sud, oui.
Au sud, et prendre en étau, donc du coup, l'armée française, eh bien, ne sont pas venus. Ils ne sont pas venus parce qu'ils se sont aperçus quand même que la puissance française était quand même très importante, que depuis le début, la France avait, enfin les armées françaises avaient occupé toutes les villes qui permettaient très facilement au roi de France de se replier s'il y avait souci, et finalement ils étaient nettement moins nombreux aussi. Parce que là aussi, le chiffre, le nombre de soldats...
Ils ont fait défection.
Voilà. Et donc, ils sont restés bien sagement, attendant la fin du conflit.
Alors qu'au contraire, le général Alviano, c'est-à-dire le Vénitien, est là, lui.
Et lui, il est là, et il va arriver le lendemain matin. Certes, il a marché toute la nuit avec ses soldats, sauf que malgré la marche, eh bien, ils sont quand même bien plus frais que tous ceux qui se sont battus pendant 7-8 heures, presque au corps à corps, sous un soleil de plomb, voire après dans la nuit.
C'est du sang frais qui arrive là.
Et c'est ça, c'est du sang frais et des chevaux frais. Mm-hmm. Et donc vers 8-9 heures du matin, 6 à 8 000 hommes vont fondre sur ces Suisses qui avaient repris l'avantage dès le lever du jour et vont les pourchasser et les tuer vraiment avec une grande violence parce que c'est là où la mortalité des soldats suisses va être la plus importante.
Et ce rasoir vénitien, si je puis dire, est à deux lames puisque après la force de percussion de la cavalerie vénitienne. Ce sont les fantassins, hein, c'est l'infanterie vénitienne qui va prendre possession du champ de bataille. C'est donc ça ne laisse aucune chance finalement aux ennemis.
Ça ne laisse aucune chance et il y a, comme les Suisses ne sont pas, j'allais dire, rentables parce que ce sont des paysans pour la plupart, il n'y a pas rançon à espérer. Or, lors d'une bataille, les prisonniers... Voilà, on les tue.
Dans des batailles où l'on a beaucoup plus de gens nobles, on essaie de faire des prisonniers.
Exactement.
Là, comme ce sont des gens qui ne sont pas solvables, tout simplement, on les tue.
Ça n'a pas de problème.
Ce qui explique que sur les 16 à 17 000 morts, semble-t-il, pour autant qu'on puisse faire des
estimations,
à la louche,
ouais.
il y en aurait 13 000 qui appartiendraient au canton suisse, dit-on.
Entre 10 000, c'est pratiquement certain, entre ceux qui sont morts sur le champ de bataille pendant les deux jours, puis aussi ceux qui sont morts des conséquences de leurs blessures par la suite, parce que tout cela ont été abandonnés après eux-mêmes, et la gangrène, les maladies, les épidémies ont finalement sans doute tué encore beaucoup plus.
Là-dessus, les poètes vont broder de belles chansons. Les poètes de France, parce que c'est bien connu, l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Grâce à vous, Didier Le Fur, nous allons essayer maintenant de voir un peu quel était le point de vue des vaincus.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
En 1515 à Marignan, les Français, aidés de leurs alliés, ont gagné cette bataille, la première gagnée par le jeune roi François Ier. Mais qu'en est-il des Suisses qui, eux, ont perdu, Franck ?
Et voilà, et ce qui nous intéresse là maintenant, on viendra tout à l'heure à la relation française des événements, parce qu'il y a eu des mythes extraordinaires qui se sont forgés sur cette affaire de Marignan. Mais avant cela, j'aimerais bien avoir, moi, la version des perdants, c'est-à-dire en l'occurrence la version des Suisses. Que nous disent-ils les Suisses, Didier Le Fur ?
D'abord, ils n'ont pas eu le sentiment d'avoir perdu réellement. C'est que très très vite, après que s'être replié, beaucoup de cantons ont espéré ou envisagé reprendre la bataille. Parce que justement, c'était presque gagné. Et il y avait encore assez de soldats.
Pas grand chose.
Non. Et ça, il y avait encore assez de soldats valides pour pouvoir encore confronter le roi de France, qui lui avait perdu beaucoup. Et donc, on pouvait continuer le conflit. Et puis, il y a eu toutes ces histoires d'argent que vous avez évoqué tout à l'heure, et de certains cantons qui, finalement, bien devant la paix proposée depuis le mois d'août et l'argent potentiel, eh bien, ont finalement contrebalancé les choses. Et finalement, François Ier a remporté la bataille, puisque l'essentiel des cantons ont accepté une paix. Alors, mais cette paix n'était pas une paix très, très, comment on appelle ça, universelle par rapport à la Confédération suisse, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une partie qui acceptait, l'autre refusait toujours.
Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est la raison pour laquelle des Suisses viennent ainsi s'opposer aux Français en Italie, qui plus est. Oui. Pour ceux qui nous rejoignent, il y a sans doute des auditeurs là qui viennent d'allumer leur radio, leur autoradio, qui se disent « mais pourquoi des Suisses ?» Eh bien, il faut peut-être expliquer, Didier Le Fur, que les cantons suisses à l'époque, qui n'ont pas tellement de ressources, vont vendre, si j'ose dire, leur principale richesse, qui sont les bras de leurs combattants, en fait. Et que tous ces Suisses, pour une grande partie, sont ce qu'on pourrait appeler des mercenaires. C'est-à-dire qu'ils se vendent au plus offrant dans les batailles de l'époque. Jusqu'à Marignan, on va voir pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas un conflit national entre la France et la Suisse, bien entendu. C'est un conflit entre le roi de France et ses alliés italiens. Ses alliés italiens ayant comme principaux soldats des Suisses qu'ils payent pour se battre pour eux. C'est ça l'histoire.
Essentiellement parce que l'armée milanaise est extrêmement faible.
Faible, oui.
Et pour les Suisses, mais c'est le principe, c'est que, en France en tout cas, l'armée suisse, enfin les mercenaires suisses, ont été des énormes soutiens au roi de France depuis Louis XI. Les Français, s'il y avait une armée dite permanente, entre guillemets, avec cette noblesse qui faisait son travail en faisant la guerre, avaient un mal fou à armer leur population plus paysanne ou plus bourgeoise, ayant peur toujours que cette même population se retourne contre le pouvoir ou contre ses représentants. Et donc faisait appel à des mercenaires, et la Suisse, comme vous l'avez parfaitement dit, les cantons offraient cette main-d'œuvre militaire pour les combats. C'était une main-d'œuvre qui était relativement chère, mais qui était très très appréciable parce que justement les Suisses avaient une très très belle réputation de soldats endurants et ne tergiversant pas quand il s'agissait de tuer. Et la fin de l'alliance franco-suisse, si j'ose dire, date de la période des années 1510-1511.
Juste avant l'avènement de François Ier.
C'est ça, où Louis XII va, lui, à un moment donné, entamer une guerre contre le pape qui entravait ses ambitions en Italie. Et les Suisses ont, du coup, choisi le parti pontifical plutôt que le parti français.
Voilà. Et voilà. Ça aurait pu être différent, mais enfin, c'est ainsi.
Voilà. Et s'ils sont présents en Italie, dans le Milan, à Milan plutôt, en 1515, c'est parce que justement, après les traités de paix, ils avaient donné leur garantie de soutien à Massimiliano Sforza pour le soutenir sur son trône et pour aussi lutter contre les interventions françaises à venir.
Quand nous pensons aux Suisses aujourd'hui, nous pensons forcément à la neutralité. Eh bien, cette neutralité, elle a partie liée directe avec Marignan.
Alors ça, c'est un très très grand débat sur lequel je ne m'avancerai pas tant que ça. Pour la simple et bonne raison que le traité de 1516, s'il fait une sorte de paix avec la France, il n'induit pas forcément une neutralité
à l'égard de tous les conflits.
Exactement. Oui. Et pendant tout le règne de François Ier, et même de celui de Henri II aussi, les Suisses, et notamment les cantons protestants, qui sont devenus protestants après 1530, vont toujours soutenir l'armée française, alors que les cantons restés catholiques vont, eux, choisir le parti de Charles Quint.
Mm-hmm. Donc la neutralité suisse... Les Suisses ne sont pas si neutres que ça.
Non. Et... Par contre, il y a un engagement face à la France, incontestable, d'une grande partie, puis après de la totalité.
Alors, les autres grands acteurs de l'affaire, ce sont les Vénitiens, bien entendu. Généralement, quand on lit dans un manuel d'histoire français la relation de la bataille de Marignan, il faut déjà que ce soit un manuel un petit peu ancien, d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, Marignan, ça passe par pertes et profits.
Oui,
bon, bref, mais à l'époque, on nous disait les Français ont gagné, etc. Alors, on décrit tout ça dans le détail, et puis on mettait généralement une petite ligne en italique. N'oublions pas l'apport des Vénitiens qui n'a pas été négligeable en fin de bataille. Ce qui est drôle, c'est que les Vénitiens, ils ne voient pas ça du tout de cette manière, eux.
Non, parce que les Vénitiens, eux, pensent qu'ils ont gagné la bataille.
Que ce sont eux qui l'ont gagné.
Et que ce sont eux, et que le roi de France est simplement venu les aider. Les textes, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il y a trois versions, en fait. Il y a la version suisse qui prétend que finalement, elle n'a pas perdu. La version française qui considère que seuls les Français ont gagné. Et la version vénitienne qui, elle, affirme très vite, des textes de 1515-1516, que c'est une bataille entre Italiens et que c'était une manière de chasser un tyran, les Suisses, pour rétablir l'autorité et que les Français étaient venus simplement les aider.
Donc ce sont les Vénitiens qui ont gagné leur propre bataille. De leur point de vue, c'est ce qui est, c'est comme ça que c'est vécu. Donc on se rend compte quand même de l'intérêt particulier de l'historiographie quand on parle de bataille, c'est-à-dire que selon le point de vue où l'on se situe, généralement la perspective est totalement différente, hein. C'est particulièrement vrai pour Marignan parce que c'est une bataille longue, confuse, complexe dans ses engagements et assez peu tranché dans ses conclusions, parce que finalement quelles ont été les conséquences concrètes de la victoire française ou franco-vénitienne de Marignan?
Elle a été importante dans les premières années du règne, dans le sens où François Ier, s'attribuant quand même la victoire, a permis d'abord de se redonner une image en France,
de
roi guerrier. Mais
c'était
image...
le tout jeune roi. Voilà. Il avait pas fait ses preuves, hein, ce gamin.
Rien
il arrivait, il avait 20 ans, et d'un seul coup, il devient le vainqueur de Marignan, le roi chevalier. Alors, nous y voilà. J'imagine que nos auditeurs attendent des éclaircissements sur ce point célèbre. On raconte également que sur le champ de bataille de Marignan, alors selon les historiens, certains disent avant la bataille, d'autres après la bataille, mais peu importe, sur le champ de Marignan, le capitaine Bayard aurait fait chevalier, aurait adoubé le roi de France. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, Didier Le Fur? C'est pas moi qui parle, c'est Didier Le Fur.
Ah ben j'assume. Eh ben l'oublier. François Ier.
C'est pas vrai, hein, cette histoire.
Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est une histoire magnifique parce que elle va permettre au souvenir de Marignan de traverser les siècles et tous les régimes politiques, quels qu'ils soient. Au départ, François Ier est sacré, comme vous l'avez dit, le 25 janvier 1515, et lors du sacre, tous les rois sont faits chevaliers. Celui qui fait chevalier ce jour-là, François Ier, c'est Charles de Bourbon, nouveau connétable.
Donc, quoi qu'il arrive, François Ier, comme tous les rois de France, est déjà adoubé chevalier.
Hein. Et comme tous les rois de France, François Ier est un roi chevalier.
Voilà.
Donc, il n'y a pas de différenciation à faire. D'ailleurs, elle ne se fera pas avant le 19e siècle. Et la bataille se fait, 10 ans passent, ou quelques années en tout cas, et entre-temps, on ne parle pas de Bayard. Dans tous les textes qui racontent la bataille de Marignan, de 1515 à 1525, on ne parle jamais de Bayard quand on évoque la bataille de Marignan. Mais arrive un petit souci pour le roi de France, c'est les prétentions, enfin en tout cas, c'est les prétentions à un héritage de Charles de Bourbon qui venait de son épouse, et les prétentions aussi de Louise de Savoie sur ce même héritage, et voire même les ambitions aussi du roi de France sur ce même héritage, et c'est une sorte de procès assez compliqué, mais qui va conduire Charles de Bourbon à quitter la France.
C'est la trahison du connétable.
Exactement. Et en 1524, eh bien, alors que François Ier a perdu le Milanais depuis 2 ans déjà, et tente désespérément de le récupérer avec une armée pas forcément très 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 solide, en tout cas nombreuse mais pas très très efficace, et eh bien Charles de Bourbon va participer à la défense du Milanais, mais côté impérial. Et François Ier, voyant les échecs de ses armées, eh bien décide, pour soi-disant tenir ses soldats et montrer son autorité, de s'investir davantage dans ce conflit, et part une nouvelle fois en Italie. Le début marche très très bien, la conquête semble assurée, tous les ennemis d'hier se taisent ou tentent de nouvelles alliances avec le roi de France, imaginant qu'avec les nouveaux traités de paix, eh bien, ils puissent s'en tirer un peu mieux. Pavie reste à prendre, puisque Milan a été pris, et le seul problème, c'est que Pavie ne sera pas prise facilement, et un siège long va se structurer.
Qui aboutit à une catastrophe pour la France, puisque non seulement l'armée française est défaite à Pavie, alors là, il n'y a pas de doute sur le perdant de la bataille, mais en plus, le roi de France lui-même est fait captif. Il est capturé par les impériaux. Il va bientôt traverser la Méditerranée et être mis en geôle par Charles Quint à Madrid. C'est une catastrophe. Et là, il faut peut-être redorer le blason du roi, pour le coup.
Ben c'est ça. C'est-à-dire qu'un roi de France qui se fait prendre sur un champ de bataille, celui qu'on avait présenté comme l'élu de Dieu, choisi par Dieu, protégé par lui, pour faire créer non seulement la paix en France, mais aussi en Europe, dans le monde chrétien, et puis voire même davantage, c'est-à-dire conquérir le monde afin que tout le monde devienne chrétien et que le Christ puisse revenir sur terre. Dans tout ce délire, parce que c'est un vrai délire de textes, de propagande, d'images qui a construit tout le souvenir, enfin tout l'imaginaire qu'on avait autour de François Ier, tout ça s'effondre. Et au profit de Charles Quint, qui lui par contre récupère tout ça, puisqu'il considère que la bataille étant l'acte le plus sûr sur l'aide de Dieu, et bien, et lui ayant été vainqueur, maintenant c'était lui qui était forcément protégé par Dieu. Et donc en France, pour restaurer tout ça, et notamment restaurer l'image militaire qui reste une image essentielle, eh bien, on va réinventer quelque chose.
Et à la fois de François et de Bayard, les deux héros de Marignan.
Les deux héros
de
Marignan.
Et l'on explique.
En faisant une rupture, surtout, entre les liens qui existaient entre François Ier et le traître.
Et voilà. Et surtout, on explique que si François Ier a perdu Pavie, c'est parce que les codes de l'honneur de la chevalerie l'obligeaient à s'investir,
exactement,
etc. Bref, on l'excuse en vérité.
On l'excuse et lui-même y participe, puisque finalement il favorise tout ça largement.
Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est Didier Le Fur, auteur chez Perrin d'une très belle et très subtile biographie qui s'appelle tout simplement François Ier. Et dans la collection de poche des éditions Perrin chez Tempus, vous allez trouver le Marignan 1515 qui vous décrit la bataille minute par minute.
Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Franck Ferrand répond à la question d'Hervé qui souhaite connaître les origines de la chasse.
Europe 1. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, aujourd'hui, Franck, vous répondez à une question d'Hervé via le site internet europe1.fr. Pourriez-vous nous rappeler les origines de la chasse ?
Oui, c'est très intéressant. Alors les origines, sûrement pas, parce que ça nous ramènerait non seulement à la plus haute antiquité, mais même à la préhistoire, bien entendu. Donc je vous parlerai de la chasse dans les temps modernes, qui pendant très longtemps a été l'apanage des seigneurs. Il ne faut pas l'oublier que la chasse était un privilège de noblesse. Et d'ailleurs, vous savez à quel point le braconnage était sévèrement réprimé. Jusqu'en 1669, jusqu'au milieu du règne de Louis XIV, on pend encore des braconniers. C'est-à-dire que le braconnage peut être puni de mort, vous imaginez. Alors, il y a divers types de chasses. Il y a les chasses à tir, les chasses de battue, les chasses à cour, qui sont les plus prestigieuses, bien entendu, avec deux grands types de chasses. La chasse à la bête rousse, c'est-à-dire les cerfs, etc. Et la chasse à la bête noire, ça c'était le sanglier qui faisait si peur, n'est-ce pas, qu'on chassait avec des pieux. Les cerfs à cour étaient chassés grâce à des filets, des raies, comme on disait, qui permettaient d'enserrer les animaux. Ça, c'est en tout cas jusqu'au tournant du XVIIe siècle. Je ne vous parle pas de la chasse au vol, c'est-à-dire avec la fauconnerie, etc. C'est encore un autre domaine. Bref, tout ça, c'est l'Ancien Régime. Et puis arrive la nuit du 4 août 1789, on abolit les privilèges et ça veut dire qu'on accepte le droit de chasse pour tout un chacun. Ça, c'est pour les Français de l'époque, ça a été considéré comme une avancée considérable. C'est un acquis énorme, on avait le droit de chasser. Attention, droit de chasse exclusif, ça c'est très important. C'est-à-dire qu'on ne pouvait chasser que sur ses propres terres. Donc ça excluait quand même énormément de braves gens qui n'avaient pas de territoire où chasser. Et il a fallu attendre 1844, donc sous le règne de Louis-Philippe, pour que ce droit de chasse exclusif soit aboli. À ce moment-là, on a adopté l'idée d'une chasse avec accord tacite du propriétaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le propriétaire était d'accord, vous aviez le droit de chasser. C'est l'origine du permis de chasse, mars 1844. Et puis alors à partir de là, eh bien c'est la chasse, j'ai presque envie de dire la chasse du dimanche, la chasse dominicale, celle qu'a si merveilleusement décrite Maurice Genevoix. Enfin ça nous entraînerait encore un peu plus loin.